Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Un jour, une histoire, consacrée aujourd'hui aux mutineries de la force publique survenues la semaine après l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960. Vous suivrez des témoignages et témoins vivants de ces événements, mais également la lecture croisée des faits du professeur Louis Kaloubinkola et du père Léon de Saint-Moulin. Prise de son, Willem Lungamba, supervision Emmanuel Imbanda, au micro Kélim Kouté. Le jeudi 30 juin 1960, le Congo accède à sa souveraineté internationale. C'est la joie, la fête à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa et à travers tout le pays. Une joie de courte durée. 4 jours plus tard, le général Léon Cesse réunit les gradés de la force publique de Léopoldville et de Tshisville, actuel Mbanzangungu, au camp Léopold II, actuel Kankokolo à Kinshasa. Là, il pose 2 actes majeurs, entrés dans l'histoire comme malheureux. La rétrogradation d'un officier congolais, il établit sa fameuse équation avant l'indépendance égale après l'indépendance. Nous nous sommes rendus à la résidence Saint-Ignace dans la commune de la Gombe pour rencontrer le père Léon de Saint-Moulin. Ce père scout, arrivé au Congo en 1959, nous replonge dans ces événements.
Le discours de Lumumba a été très mal pris par les Belges et celui du roi Baudouin semble terriblement paternaliste aux Congolais. Lumumba a parlé uniquement pour expliquer aux Congolais que l'indépendance, ça valait la peine qu'on s'était donnée et les peines qu'on avait supportées. Il a parlé uniquement pour les Congolais et le roi Baudouin, malheureusement, a parlé uniquement pour les Belges pour les remercier et faire leur éloge. Et le résultat est notamment qu'on ne s'était pas occupé du tout des militaires. Et les militaires, eux, rien n'était prévu. Alors c'est le 4 juillet que l'insubordination a commencé au camp Kokolo. Et le général Janssens, qui était le général en chef, resté en position, a dégradé publiquement un sous-officier congolais pour insubordination. Il a cru qu'on pouvait mater par la force. Et par conséquent, là, le 5, il a voulu reprendre le contrôle, si je puis dire, affirmer son autorité, et donc lui a mis au tableau tout crânement qu'après l'indépendance, pour l'armée, égale avant l'indépendance, et arrive, vous devez continuer à obéir, c'est nous qui commandons. Donc, cette réaction du général Janssens, c'est face à l'insatisfaction des militaires qui se manifestent. Et là, tout se déclenche et va aboutir à ce qu'on a appelé une mutinerie, avec d'ailleurs un tas de nuances à mettre dans l'analyse, s'il vous plaît. Le 5 juillet, il a écrit cela, mais ça n'a pas calmé les gens. Et le 6 juillet, Lumumba va au camp Kokolo le matin à 7h30, et il croit reprendre le contrôle de la situation en disant qu'il accorde à tout le monde une élévation de grade. Ça ne satisfait pas non plus les gens. Et le résultat est que le 6 déjà, il y a de l'insurrection qui commence, des insubordinations qui se déclenchent aussi à Madimba et à Mbanzangungu. Et le général Janssens croit tout de même pouvoir faire appel aux gens de Mbanzangungu pour venir mater Kinshasa.
Mais ne savait-il pas que déjà Mbanzangungu ça bouillonnait?
C'est essentiellement quand cet ordre a été donné que ça a pris des dimensions, notamment d'insurrection grave, dans la mesure où on a violé 5 femmes blanches. C'était des gestes symboliques pour réaffirmer que non, c'est plus eux qui nous commandent. Mais c'était évidemment très offensant pour celui qui subissait l'affront. Et ça a déclenché alors l'arrivée ici le 7 matin à Kinshasa d'un tas de réfugiés qui fuyaient les exactions. Et la débandade qui a fait qu'à Matadi, on a rassemblé tous les blancs sur des bateaux. La mutinerie commence par une insatisfaction au fait que l'indépendance n'a rien changé, et par un essai de la mater simplement par des ordres et de brimades en disant « vous avez à obéir, ça a discuté ».
Partie de Kinshasa, la mutinerie a gagné Mbanza-Ngungu, puis s'est répandue dans les autres parties du pays. À Kokiladville, actuel Mbandaka, il s'est aussi passé des choses que nous raconte papa Constant Mongbema, infirmier depuis bien avant l'indépendance et témoin des événements à Mbandaka. Papa Constant Mongbema.
Le 4 juillet 1960, tout juste 4 jours après l'indépendance. Donc là, il y avait des paracommandos belges qui étaient entourés, ils sont venus entourer Laura Gabriel et Ketebi, parce qu'il était directement nommé président provincial, donc en remplaçant le gouverneur, donc maintenant on appelle le gouverneur, mais il était le président provincial. Les paracommandos étaient là, il n'a pas voulu céder, parce qu'il demandait...
Et Ketebi avait remplacé qui?
Il avait remplacé le gouverneur européen là, mais c'est Van de Belge, il a été confirmé après. Après l'indépendance le 4 juillet, la population, ils réclamaient l'indépendance totale. La population, alors ils ont couru de la cité vers l'avenue Charles de Chêne, ils ont descendu.
Aujourd'hui, on appelle cette avenue comment?
On appelle l'avenue Mobutu, alors ça devient donc l'avenue de libération à peine. Et après, ils sont descendus jusqu'à l'avenue Moudi, descendaient jusqu'à l'avenue Ipeko. Alors, il y a d'autres qui ont pris l'avenue Révolution jusqu'à la commune. Il y a d'autres qui ont pris...
Quelle commune?
Commune de Wangata. La commune de Wangata. Alors, les autres ont pris l'avenue Ipeko en montant vers la ville. Ils devaient aller voir l'économa, le magasin économa qu'on mettait pour le peuple, pour la population. Alors, ils voulaient aller saccager ça. À ce moment-là, il y avait encore des Européens, d'autres ne partaient pas encore. Maintenant, le commissaire de police a donné l'ordre maintenant de tirer. Ils ont jeté d'abord la gaz de lacrymogène. Quand ils ont jeté ça, il y a de ces gens-là, le bonnet qui disait « Aïe, on a des mizingapamba, on a des terres, surtout l'indépendance, la bisso, ils ont la fin d'actif, surtout le président, la bisso, il y a gêne. Et après, ils commençaient à se révolter. Et après, il y a d'autres qui ont pris l'avenue de l'évolution. Maintenant, ils ont commencé à tirer. Il y a eu quatre cadavres sur les champs. Donc, ils sont allés les déposer tout juste à la commune de Wangata, là qu'on a marqué les martyrs de l'indépendance.
Vous vous trouviez où ces jours-là? Vous vous trouviez où?
Oui, ça faisait quand même panique. Mais nous étions à l'hôpital général de référence. Bon, disons l'hôpital général, congolais, hôpital congolais. Nous avons attendu seulement des coups, des balles, des coups qui traînaient là-bas. Alors, tout le monde était traumatisé.
Et cela me pousse à vous poser la question. Quelle a été la réaction des infirmiers avec qui vous travaillez ces jours-là à l'hôpital congolais?
Oui, la réaction des infirmiers, on recevait les blessés, parce qu'il y a eu des blessés qu'on a menés à l'hôpital. Quand ils sont arrivés, on a commencé seulement à soigner, parce que les infirmiers soignent. Mais la réaction, nous, là, on n'a pas entré dans l'histoire là, de politique et tout ça, mais nous avons seulement soigné. On a soigné quelques malades, les décédés, on l'a amené là-bas, à la commune de Wangata.
Mais comment vous étiez rentré ces jours-là à la maison?
Oui, le soir, nous sommes rentrés, chacun a gardé sa maison le soir, parce que immédiatement après, à partir de 16h, la situation était venue calme. Ils n'ont pas attaqué l'hôpital.
Mais il semblerait que c'était une mutinerie. C'est comme si c'était une révolte des militaires de l'ancienne force publique. Les mécontentements étaient partis de quel camp? Si réellement c'était une mutinerie.
Bon, là, donc, tous les militaires restaient là-bas. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant les camps d'âge. Donc, ils restaient là-bas. Alors, quand ils ont descendu, comme ils ont appris des bruits, qu'il y a la population qui sont révoltée, alors ils ont descendu sur les terrains. Alors, c'est là qu'on a jeté les gaz et les mosaires. Et après, ils ont commencé à tirer par l'ordre du commissaire, qui était le commissaire européen là. Alors, quand il était bien attendu ça, donc il a donné aussi la force à nos policiers, qu'on appelle maintenant Kabisingwa. Parce qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Bisingwa, donc il était là, donc le premier sergent major. Et immédiatement après, on l'a nommé comme commissaire. Alors c'est lui qui a essayé d'interdire, de mettre la tranquillité à la ville. Mais c'est Bisingwa.
Ce premier sergent-major, là, Bisingwa, avait pris quelle initiative?
Bon, lui a pris, pour mettre l'ordre, il a pris l'initiative de tranquilliser, il a envoyé les autres qui étaient sortis du Kangash, et la police connaît le travail à la police, et la police a essayé de mettre du calme, et ça a été terminé comme ça. Ça n'a pas fait beaucoup de jours, hein. C'est seulement une journée là.
Mais qu'est-ce qui avait poussé les gens à descendre, c'est-à-dire la population civile, à descendre dans la rue?
Ils étaient vraiment mécontents quand les commandos belges étaient descendus et venus entourer la résidence. Parce que la première résidence, ça a été en ville, là. C'est là que vous voyez.
La résidence de qui?
Pas la résidence, c'est donc les bâtiments administratifs. Oui. Ça a été le bureau du gouverneur. C'est là qu'on avait entouré Ketebi Laura Gabriel, donc les paracommandos belges. Et après, quand Laura a persisté, alors, mais maintenant, la population a dit, alors, nous croyons qu'on a déjà proclamé l'indépendance, et alors, les Européens viennent encore ici, alors, ils ont commencé à marcher.
Mais comment expliquer le comportement du général Léon Saint, entré dans l'histoire comme déclencheur des mutineries, en sa qualité de commandant en chef? Ignorait-il le moral des troupes? Le professeur Louis Kaloubi-Nkola, docteur en sociologie politique et relations internationales de l'Université pédagogique nationale, il accuse le général Léon Saint et certains milieux d'affaires belges d'avoir fomenté ce coup.
Oui, Saint, c'est un vieux général. Il connaît l'esprit de l'armée, il connaît la discipline de l'armée. Pour lui, il n'était pas partisan de l'indépendance pour les macaques qui venaient à peine sortir de la forêt, comme on nous appelait. Et donc, il pensait que le temps n'est pas encore venu parce que chez les gradés, les Congolais avaient que le rang. Toujours le rang inférieur. Bien que l'armée existe depuis très longtemps, structurée depuis 1888, donc les Congolais n'ont pas été assez loin. Qu'on se souvient de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu les Congolais briller sur les champs de bataille, il n'y a aucun Congolais qui a eu un grade beaucoup plus élevé que caporal. Alors donc, pour Léon Saint, c'est comme ça. Alors, Léon Saint n'était pas seul, c'est toute une corporation. Si vous prenez le militaire qui est en Algérie, du côté de l'Algérie française, De Gaulle a connu des choses avec ce militaire-là, et vous verrez qu'il y a une coopération, nous qui avons fait un peu de recherches là-dessus, il y a une coopération entre ces militaires de l'Algérie et les militaires du Congo. Leur point de vue, c'est que c'est trop tôt pour donner l'indépendance aux Congolais. L'armée doit rester là comme garant des intérêts belges, l'armée doit rester là-bas comme le Congo, comme l'extension de la Belgique, et l'armée doit rester là-bas pour garantir tout ce qui a été investi dans ce pays. Donc, Yansens ne pensait pas quitter le Congo.
Et son équation dégoupille la grenade et c'est la mutinerie à travers le pays.
Oui, la mutinerie, c'est l'arme ultime, hein, parce que derrière la mutinerie, on voyait aussi la main belge. Parce que rendre le Congo ingouvernable. Vous verrez qu'après la mutinerie, le gouvernement décide que tous les blancs qui travaillaient au Congo doivent quitter. Maintenant, on rend les pays ingouvernables. Maintenant, si nous rendons les pays ingouvernables, qui reviendront pour les aider? Ils vont faire appel aux Belges, et cette fois-ci, les Belges viendront en force pour imposer leur loi. Donc, c'était la vision qui était prévue en ce moment-là. Vider les Congos de blancs et voir si ces Congolais ont la maturité nécessaire pour gérer leur pays. Donc, la Belgique est à la base de cette histoire. Deuxièmement, il y a la signature des traités d'amitié belgo-congolaise signée le 29 juin 1960. La Belgique va violer ces traités suite à toutes ces déclarations, suite à cette mutinerie pour envahir le Congo. Donc, c'est quelque chose qui a été préparé, ce n'est pas quelque chose du hasard. La première agression que nous avions venait de la Belgique elle-même.
L'historien belge, le père Léon de Saint-Moulin, confirme les accusations, mais il souligne les divergences des vues au sein du gouvernement belge en 1960.
Et là, c'est particulièrement grave, en ce sens que il existe, c'est mentionné dans une étude justement d'un ancien colonel de la force publique qui a enregistré tous ces messages-là qui avaient été donnés. On a donné le 10 juillet à 12 heures un message à Kitona, demande si batterie de Boulabemba, au-dessus de Matadi, aux mains des mutins, dans l'affirmative, assurer neutralisation. Mais c'est très grave, de l'extérieur, on donne un ordre d'aller neutraliser les batteries de Matadi, et on appelle mutins les soldats de la force publique qui les tiennent. ce message-là, il a été annulé 2 heures après, n'a pas été exécuté comme tel, mais Gilson, le ministre des colonies, je vous ai dit que le gouvernement belge était loin d'être un bloc unique, il y avait des tiraillements dans différents sens, et le ministère de la Défense, qui avait préparé une éventuelle intervention, a donné toutes sortes d'ordres qui n'étaient pas discutés en Conseil des ministres. Donc, le 11, là, vous voyez effectivement, non seulement qu'il y a un malentendu, mais qu'il y a des intentions totalement opposées et des intérêts. Gilson, le ministre de la Défense, lui, son idée, il l'explicite dans les messages, c'est que Matadi est un centre essentiel pour les activités commerciales et la Belgique ne peut pas laisser le port de Matadi tomber dans le désordre. Donc, on donne des ordres comme si on avait encore la souveraineté.
Indépendance, tcha-tcha, tous oubliés. Au Kinshasa, tcha-tcha, tout va guider. Au Cameroun, tcha-tcha, va gagner. Au Nipata, tcha-tcha, tous oubliés. Indépendance, tcha-tcha, tous oubliés. Au Kinshasa, tcha-tcha, tout va guider. Au Cameroun, tcha-tcha, va gagner.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, votre magazine Un jour, une histoire vous parle aujourd'hui des mutineries de la force publique survenues la semaine après l'indépendance du Congo le 30 juin 1960.
Un jour, une histoire. Un magazine sur l'histoire du Congo. Revivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez les personnages et acteurs de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour, une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez Kevin Kouté et toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion, le dimanche à 20h30, le mercredi à 14h15.
La mutinerie se déclenche dans plusieurs villes et cités. Le premier ministre Patrice Lumumba ne croise pas les bras. Le 6 juillet 1960, un jour après le déclenchement de la mutinerie, il inspecte la caserne Léopold II, actuel camp Kokolo à Kinshasa. Il est en compagnie du général Léon Sens. Lumumba promet les avancements en grade des troupes. Les troupes n'y croient pas. Les soldats crient « Lokuta !» écrit David Van Reybrouck dans Congo une histoire. Selon le père Léon de Samoulin, il est obligé d'échapper aux troupes en colère, mais il ne baisse pas les bras. 2 jours plus tard, il écarte le général Léon Sens et nomme Victor Lundula commandant en chef des forces armées. C'est un réserviste, ancien sergent infirmier, pendant 15 ans et bourgmestre de Jadoville, actuellement Likasi. Joseph Désiré Mobutu, ancien sergent comptable, homme de confiance de Lumumba. La force publique devient à l'occasion ANC, Armée nationale congolaise. Lumumba décide aussi de l'africanisation accélérée des cadres. Pour beaucoup, c'est des décisions désastreuses. Le père Léon de Samoulin n'est pas de cet avis.
C'est une désorganisation très large et en même temps, une africanisation effective, y compris là où il était bon qu'elle arrive. Moi, je suis remonté au Kwilu, il y a des chefs d'usine qui sont devenus chefs d'usine congolais parce que les Blancs étaient partis. On a bien dû en nommer un responsable supérieur et qui ont très bien fait le travail. Et je suis remonté avec un capitaine de bateau qui était un Congolais. C'était la première fois qu'il y avait un capitaine de bateau sur un bateau courrier qui remontait le fleuve. Donc, cette situation a été l'occasion quand même d'une maturation. J'ai connu le général Singa Boyangé qui est venu comme gouverneur à Lubumbashi. Mais cet homme avait un français raboté, Mais il avait non seulement beaucoup de bon sens, mais de capacité de jugement et de commandement. Je l'ai vu, qu'est-ce qu'il dirait, manœuvrer avec les étudiants, qui n'étaient pas non plus un public facile, quand moi j'étais enseignant à Lubumbashi. Cet homme avait appris beaucoup et grandi. Et des gens comme le général Lundula, que j'ai très très bien connu, étaient des gens pleins aussi de sagesse et de savoir-faire, qui restaient calmes devant les difficultés. Donc, cette période-là, en même temps, était une période de croissance pour beaucoup de Congolais. Mais économiquement, comme je l'ai dit, le gouvernement central a perdu les revenus de la Gécamine pendant 2 ans, pratiquement. Et même après, le nombre, qu'est-ce qu'il dirait, d'affaires qui ne tournaient plus rond, parce qu'il y avait quand même eu pas mal de casse, finalement, et surtout de gens qui étaient partis, a fait qu'on a connu des années difficiles qui ont entraîné la rébellion en 1964.
Le père Léon de Chamoulin parle des années difficiles qui ont entraîné la rébellion en 1964. Pour beaucoup d'historiens, le Congo indépendant n'est pas né sous un bon jour économiquement. Au 30 juin 1960, disent-ils, les savoirs de la colonie étaient transférés en Belgique. Un mauvais départ. Le professeur Louis Kaloubi le souligne. Dans le studio de Radio Okapi, il revient sur l'idée de complot.
Vous savez, la Belgique a joué sur ce point-là, parce que, regardez, quand on a fait la conférence de table ronde, c'était politique. Tous les milieux politiques congolais étaient là. Mais lorsqu'on proclame la conférence économique, les Congolais ont envoyé les sous-fifres là-bas. Or, ça c'était le fondamental même. Et la Belgique savait ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qui a été signé à la conférence économique? Nous n'avons pas grand-chose jusqu'à ce jour. Tous dans les secrets du gouvernement belge. Mais quand Lumumba dit qu'on transfère toutes les grandes compagnies belges qui transfèrent leur capital ici à Leopoldville, et c'était ça qui a tout débordé. Et finalement, la Belgique avait tout amené dans la capitale belge à Bruxelles. Ça va créer un amour, ça va créer des tensions énormes. Parce que Lumumba ne voulait pas que cela soit fait de cette manière-là.
Et est-ce qu'à ce jour on peut évaluer, on sait la valeur plus ou moins approximative de ces avoirs qui ont été transférés à Bruxelles ou en Belgique?
L'aspect économique a toujours été le secret de Belge. Je me souviens quand l'historien belge Stengers a publié son gros volume qu'il a fait, il a dit combien les Congo a-t-il coûté à la Belgique? La conclusion c'est nul. Le Congo n'a rien coûté à la Belgique. Quand nous prenons le passage de l'état indépendant du Congo au Congo belge, le milieu politique belge, notamment le Parlement où nous avons suivi les débats, disait que nous devons prendre le Congo, mais le Congo ne doit rien nous coûter. C'est ainsi qu'on a séparé l'actif et le passif du Congo et l'actif et le passif de la Belgique. Donc finalement, si vous prenez la Deuxième Guerre mondiale, c'est pratiquement la monnaie congolaise qui a financé la résistance belge, qui a payé le gouvernement qui s'est trouvé à Londres à travers la Banque du Congo belge qui avait son siège en ce moment-là à Londres. Et la monnaie congolaise est en parité avec la livre sterling. Mais maintenant, quand nous arrivons en 1960, le Congo avait ses propres entreprises. Et il y avait des entreprises mixtes. Il y avait des entreprises propres belges. Mais tout ça disparaît d'un coup. C'est pourquoi plus tard, à l'époque de Tshombe et de Mobutu, on va parler du contentieux belgo-congolais. C'est qu'il y a un problème, des problèmes économiques qui n'ont jamais été résolus jusqu'à ce jour. Moi-même, je me souviens, j'étais en Belgique pour faire des recherches sur ce fameux contentieux, savoir pourquoi ça a été fixé à 4 milliards à l'époque de francs belges. On m'a dit, vous êtes jeune, laissez ce travail-là. Et j'ai abandonné parce que j'ai eu beaucoup de pression de la part des multinationales dans lesquelles j'allais pour avoir des informations.
Le départ des capitaux du Congo vers la Belgique remonte à 1959. Le père Léon de Chamoulin appelle à l'analyse des experts très pointilleux pour clarifier la situation des fuites des capitaux de la colonie belge vers la métropole.
Quand je suis arrivé en 1959, c'était le début, qu'est-ce que je dirais, de sauf qui peut. Beaucoup de Belges qui avaient des fonds ici au Congo les ont rapatriés en Belgique du temps où il n'y avait pas de contraintes. Il y a eu des fuites de capitaux, c'est incontestable. Et en plus, dans le traitement, qu'est-ce que je dirais moi, des sociétés étatiques ou des sociétés privées qui avaient reçu des droits presque de souveraineté, le comité spécial du Katanga, le comité national du Kivu, avait la charge d'assurer même la sécurité et la distribution des terres et des choses comme ça, qui sont des choses qui reviennent à l'État, et elles avaient de gros revenus. La façon dont tout ça a été négocié, il faut avouer que les Congolais qui ont participé aux tables rondes, surtout à la table ronde économique, ne maîtrisaient absolument pas tous les problèmes qui étaient là en dessous, et ils ont donc accepté des traités, si je puis dire, des décisions qui n'étaient pas à l'avantage du Congo, et ça a fait tout le contentieux belgo-congolais et tout ce qu'on veut. Il n'est pas facile de voir clair là-dedans, mais je répète, dire que le 30 juin les avoirs congolais étaient partis, ça c'est vraiment une simplification qui ne permet pas de comprendre quelque chose. Il faut regarder effectivement toutes les actions que la colonie du Congo belge avait dans les entreprises, la façon dont les traités ont été faits pour que ça n'existe plus, même la façon dont on a manœuvré après avec la Gécamines quand elle a été nationalisée. Vous savez comment où nous sommes arrivés. Pour y voir clair, il faudrait des gens extrêmement pointilleux dans leurs analyses, et ça resterait très compliqué de savoir où sont les responsabilités. Mais il est évident que beaucoup d'intérêts privés ont dominé sur l'intérêt de l'État.
Les mutineries ont occasionné l'envoi des militaires belges, même dans les endroits où les Belges n'étaient pas menacés réellement. Raison avancée, la protection des Belges menacés. Pour la plupart d'historiens, il s'agit de la protection de l'intérêt belge au Congo. Père Léon de Saint-Moulin a parlé tout à l'heure d'intérêt. Le professeur Louis Kaloubi revient sur la question.
Mais l'idée, c'est la protection de leurs intérêts. Regardez, ils sont à Matadi, qu'est-ce qu'il faut à Matadi? C'est un port, c'est une porte d'entrée et de sortie des biens belges. Donc il faut protéger les transactions qui se font par la mer avec la Belgique, parce que les intérêts belges sont impliqués là-dedans. Ils sont au Katanga, c'est le plus grand centre de lignes minières du Katanga, qui est un multinational, qui apporte pratiquement presque 105% au budget national à cette époque-là. Donc c'est là où il y a les intérêts belges, économiques, financiers, que les militaires sont venus. Ils vont à Kananga, bien sûr, pourquoi faire là-bas? Mais vous avez les mines de Chikapa qui ne sont pas très loin, et c'est partout où il y a ce minerai. Et vous verrez d'une manière générale, même ce qu'on va appeler plus tard les rébellions, c'est toujours dans les zones minières où il y a des richesses. C'est une manière d'exploiter, une manière de tourner nos richesses du pays.
De votre magazine Un jour, une histoire qui revenait aujourd'hui sur les mutineries de la force publique survenues la semaine après l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. Merci à Willem Lungamba qui était à la prise de son, au micro Kéline Kouté, superviseur Emmanuel Imbanda. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.